다이 미다바니 쳔다 다 미다바 세인드 삼바 아 미다베게 드 도브르제보텔라 아 다들 쳔네지 지텐다 나운주 심지 니데 토니 로고도 다데인데 아 다데인 동부 쳔네게 지텐게 라시 난주기 심지게 라시
Afin de comprendre, de réaliser le sens véritable de l'impermanence, il va nous falloir réfléchir sur les deux aspects principaux que recouvre l'impermanence, c'est-à-dire l'impermanence comme étant la nature même du contenant, ce monde dans lequel nous nous trouvons et tout ce qui le compose, et l'impermanence comme nature du contenu, c'est-à-dire nous-mêmes, tous les êtres sensibles qui évoluons dans ce monde.
Chenegi chine deyang se tuchen le sonwa tuchen le made bachi yo ma sonwa tuchen tenza de ta de tuchen deyang on gan le tene yong le tene ben chongwa shi ane du tarap le made bachi chenegi chine ji kansawa ta togaya sinanta re ne leyan sina shinkyo mare.
Le contenant, ce monde tout entier, est composé de matière, c'est-à-dire au niveau le plus infime de particules d'atomes, de particules indivisibles, les plus infimes, qui composent absolument tout dans ce monde, hein, particules qui sont en rapport avec les quatre éléments, et toute chose est ainsi constituée et formée dans donc le monde externe, ce que l'on appelle le contenant, le monde externe, l'univers dans lequel nous sommes.
Taï chuzuji kashi shingham lebarwa ma. Chuzuji kashi shingham langa chimbarwa. Shingham
la. Shingham la.
Chuzuji chi.
Dans l'intervalle entre les deux enseignements, nous avons eu trois heures entre temps jusqu'à maintenant, et voilà, j'en ai profité pour faire un petit tour dans un champ pur. On y est vraiment très très bien. Parce que ce matin, d'avoir évoqué l'impermanence au cours de l'enseignement, ça m'a tellement attristé que donc j'ai profité du break, de la pause, pour aller un petit peu dans un champ pur où on y est vraiment si bien.
Et
donc dans ce champ pur, le Bouddha Amitabha a été d'une grande gentillesse, d'une grande douceur avec moi. Voilà, mais bon, maintenant là, c'est terminé. Nous voilà revenus dans l'impermanence, c'est de tourner en rond, de continuer avec l'impermanence. Donc, parvenir à comprendre ce qui est vraiment le principe de l'impermanence, pas l'impermanence, le sens commun que nous avons à l'esprit habituellement, mais vraiment d'en comprendre le principe, c'est-à-dire ce principe de l'impermanence absolue de toute chose, d'instant en instant, dans la transformation perpétuelle de toute chose. De comprendre ce principe, bon, c'est bien, mais quel en est le bénéfice? Quel bénéfice, quel profit peut-on retirer de cette compréhension? Parce que si c'est juste pour comprendre, bon voilà, oui, j'ai bien compris, telle est la nature véritable de cette poterie, ou telle est la nature véritable absolue de toutes les choses, et puis que ça se limite à cela, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Quel est le profit que nous pouvons, que nous allons retirer? À quoi sert une telle compréhension?
Dele chendu jubi ki mingse ki yundin rochi lenya yomarwa. Ta denna shenge metabi chunye de shenba yi na, ta bumbu tau ko deyra shen ne, ni deyma do shen yundin peju tangsan neba rochi di maari, nizu kaari. Kaayasi na, tata nga nazu metabi degi deyun de man shen ne, suzu lu di pa chul ne, kanda tangsi warita, Ningbu maybe rig la long sujugu yores. Midabi turn the machine. Then midabi turn the leg po susugi da logi to na. That the yuki numtru de only a mound but a chinchy machine but a tene gandal lam yanda baki chisu to biki pin yores.
Oui, donc la compréhension du principe de l'impermanence va nous être véritablement utile, contrairement à la compréhension de la nature qui est celle d'un vase. Voilà, à partir du moment où ça se limite juste à comprendre sa nature sans pouvoir l'utiliser, bon, ça ne nous sert à rien de savoir comment il est constitué et quel est son principe d'existence si on ne s'en sert pas. Il n'en est pas de même pour cette compréhension qui est celle de l'impermanence de toute chose. Elle va nous être directement profitable en ce sens que On va comprendre, en comprenant ce qu'est l'impermanence, quelle est l'erreur que nous commettions jusqu'à présent dans l'appréhension de toute chose, et donc dans ce que jusqu'à présent, l'expérience qui est la nôtre dans ce monde est une expérience continue de toutes les choses dont nous jouissons, qui s'avère en fait totalement vide, vaine, puisque tout ce dont nous jouissons en le tenant pour réel n'a pas la moindre substance. Donc en fait, c'est complètement vain. Réaliser cette erreur va nous être utile pour l'avenir, pour nous établir dans notre rapport au monde et à notre expérience de toute chose, dans une vue juste pour l'avenir. C'est cela que nous allons en retirer.
Donc,
comme je le disais, du point de vue du contenant externe, ce monde, tout l'environnement dans lequel nous nous trouvons est entièrement et absolument entièrement composé, matériel, composé, c'est-à-dire constitué de particules infimes de substances, si l'on peut dire. Tel est donc le fait du monde dans lequel nous nous trouvons. Il est entièrement composé de cet assemblage de substances, de particules infimes qui le constituent en toute chose. Prenons l'exemple de ce bâtiment dans lequel nous sommes. Il est donc ainsi constitué, composé de matière, et donc ceci au niveau le plus infime par l'immense nombre de particules infimes toutes rassemblées et qui le constituent. On peut dire, si on place ce bâtiment comme existant de par cause et condition, voilà quelle est la cause, hein, la cause principale de ce bâtiment, d'existence de ce bâtiment, c'est cet assemblage, réunion d'une multitude de particules infimes, d'atomes, qui le composent dans tous ses éléments. Et puis, c'est associé à cela des conditions. On va dire que ces conditions ont été principalement le fait que toute la substance dont il est constitué a été mise en œuvre par des personnes qui, par leur travail, leur organisation, ont construit ce bâtiment, et puis ensuite en ont fait toutes les finitions pour que finalement il existe tel que nous le voyons aujourd'hui. Donc voilà en quoi un exemple, hein, une chose ainsi composée qui procède du fait de la réunion de causes et de conditions.
Ma sauce, non?
Donc, ce bâtiment, clairement, n'existerait pas hein, s'il n'y avait pas eu cette réunion. D'abord, la cause élémentaire qui permet, qui lui permet d'exister, la présence d'une multitude de particules infimes, donc rassemblées en cohésion, et puis donc l'intervention de personnes qui ont construit ce bâtiment. Tout cela est nécessaire. Si on enlève l'un ou l'autre, ce bâtiment n'existerait pas. La cause principale et puis toutes les conditions qui lui ont permis d'être construit et d'exister. Et il en est, bon, ça c'est un exemple, mais bien sûr on peut l'appliquer à tout autre bâtiment, maison plus petite que ce temple, et plus largement à toute chose, de la moindre à la plus grande, dans ce monde, tout est ainsi. Donc, par exemple, prenons tout ce qui est air dans ce monde, est ainsi constitué, tout ce qui est eau est ainsi constitué, etc. Absolument, toute chose, tout ce qui le compose est lui-même composé ainsi et existe de par cette réunion de causes et de conditions.
Du jundu, denzing dan, tanzing, and paja shushumbu yudu, denzu tong tugu yomaris. Denzu tong tumatula tene, denzula, and in tela hajange shenja, shuchir, ingu yure, den nesu de hagosona, shincha de shes, desamgi, and in chumbu, pemetubala, gagu yuris.
Donc, toutes les choses sont ainsi des assemblages, des compositions d'atomes, de particules infimes. Tel est le principe de constitution de toutes choses, mais cela, nous n'en avons pas conscience vraiment quand nous appréhendons toutes choses. Nous les appréhendons systématiquement et donc sans cette perception de leur réelle composition, de leur principe même, sans cette compréhension, nous les appréhendons dans les termes habituels qui sont ceux d'une sorte de très puissante saisie d'une réalité de ces choses, et puis également avec ce qui est en nous la saisie égotique, hein, donc les deux saisies de la réalité des choses et la saisie égotique nous font ainsi développer envers toute chose, nombre de choses, un très fort attachement, incapable d'avoir conscience continuellement de ce qu'est en fait leur véritable nature, d'où ce très fort attachement. Alors voilà à quoi va déjà servir le fait de comprendre ce qu'il en est de toute chose pour atténuer tous les attachements que l'on peut avoir dans ce monde à différentes choses. Par exemple, dans notre relation à l'autre, disons pour une personne, prenons une personne qui nous est très chère, envers laquelle on éprouve beaucoup d'amour et l'attachement qui va avec. Donc voilà, donc on éprouve un grand amour pour cette personne et on peut alors se demander, bon, voilà, je suis très attaché ou amoureux de cette personne, mais on va essayer d'aller plus loin pour comprendre, mais quelle est vraiment la substance et la raison de cet amour. Bon, alors c'est cette personne, c'est clair, c'est cette personne. Mais cette personne, est-ce que je suis amoureux ou attaché à elle? Alors est-ce que c'est à sa tête, à ses bras, à ses jambes, à ses mains, à son visage, à ceci ou cela? Donc si on essaye de localiser plus précisément. Et puis comme cela, donc, du plus grand vers le plus petit, de l'extérieur vers l'intérieur, si on essaie de localiser précisément où quel est vraiment l'objet de notre amour et de notre attachement, en disséquant ainsi la personne en face de nous, on ne va rien trouver. Au final. Alors, quand après on revient à ce qui est donc notre sentiment premier, c'est-à-dire l'amour, l'attachement qu'on éprouve envers cette personne, quand on a, après avoir procédé à cet examen, on va se dire, bah, c'est tout à fait incroyable et extraordinaire que je puisse finalement éprouver de l'amour pour ça.
Not only front but behind.
Behind.
Ne so tenso te yapu chi shen to ba ina ane chi yana yina yang zewa te tukure rwa ko gongbu yina yang zewa te tukure chazan zewa te tukure de ma to mi ane de ma to dong jubu dira zewa che gongbu dira jubu za ane jab dira zewa te ma tuwe se ya de korang gansi wa za shirab ki chao de matambe ki nesula dine yungu yores
donc voilà on éprouve l'amour envers cette forme hein, qu'est la personne que l'on aime, à qui on est attaché, cette forme-là. Et donc, on voit que c'est un sentiment qui est sur l'apparence, hein, c'est-à-dire que, voilà, pour ce qui se présente devant nous. Et pour qu'il y ait vraiment, pour que cet amour soit quelque part, donc il faudrait vraiment le trouver, non seulement devant, mais également derrière, hein, en apparence, mais au fond. En l'occurrence, c'est justement ce que l'on ne trouve pas après mûr examen. L'amour que l'on porte et ce qui justifierait cet amour ne se trouve pas donc dans l'objet lui-même, objectivement. En le décomposant ainsi, on ne l'a trouvé nulle part. Donc la justification, il en faut bien une, de cet amour n'est pas dans l'objet. Également, si on se tourne vers l'intérieur, donc, elle ne se trouve pas non plus dans l'esprit. Quelque part, il n'y a rien qui fonde objectivement cet amour. Pour cela, il faudrait qu'il y ait aussi derrière, non seulement en avant-plan, mais en arrière-plan de cette personne, quelque chose qui, objectivement, justifie cet amour et cet attachement qu'on lui porte. S'il y avait bien quelque chose en arrière-plan, alors oui, là, donc ça aurait une signification, il y aurait une raison légitime, mais en l'occurrence, ça n'est pas parce que ça n'est qu'une apparence superficielle qui nous fait développer cela dans l'illusion de ce qu'est véritablement ce que nous aimons, ce à quoi nous sommes attachés.
Voilà, c'est navaré.
Voilà. Voilà. Délai. Voilà.
Ah.
Voilà, pardon.
Ouh là là, c'est navaré.
Ouh là là, c'est navaré. Ouh là là, tati. Tic, nous n'est marwa. Ouh là là. When you are how to say, surprised, or no, ulala, when will you say ulala? saying of, surprise, huh?
Surprise. That's so. Ani bena. Tadi nezu chazan haku ne ro. Tepene. Inlare, kumbure, chazangi nezu haku tene zewate tuduna wala res. Di hamu na ulala res.
Alors, si on comprend effectivement ce qu'il en est des tenants et des aboutissants de cela, qui est cette forme devant nous, la personne, alors c'est voilà. Mais sinon, c'est oulala.
Tak anda, Pena dunga la chaba. Pena soukzebo. Pena katula kanto inare, tena shingi, aneta karina, yipan katula soukzebo tawa. Dranyimbo teba. Ane ti, ane shimbo. Ane tikas ti sangbo la chaba. Nintina shingi roshimbo. Ane reche jambo la tawa. Ane tati, kurangi yugi nesu kanya manshimbo tela cha songbo ina. Tadi chakwa rete ina, di chakwa degi kanga ane tiyungu resa na, degi kanda mongba jila tiyungu resa. Kanya kanda kanya resa na, di nesu taashi maje beko ni juus songwa yula. Di tawu tiyunga la, taashi maje ni ane juus yindi, di shugu la tivu kaashi chirisa, taashi matambu ki tivu chik tawungu resa.
Donc, quand on n'est donc pas averti de ce qu'il en est de la nature effective de ce monde, notre environnement, et donc qu'il n'est finalement absolument rien d'autre qu'un assemblage de particules infimes, on commet donc cette erreur foncière qui est celle de s'attacher aux choses. Et l'attachement que l'on peut éprouver envers toute chose, et donc principalement, quand on parle d'attachement, dans le sens du désir attachement, hein, ce qui nous attire, ce qui est perçu comme plaisant au travers des cinq sens. Alors c'est ce que l'on appelle l'attachement aux cinq plaisirs des sens. Et donc, l'attachement à toutes les belles formes visuelles que nous voyons, et donc, en percevant la beauté de ces choses, s'y attacher. Et nous faisons de même, donc, avec les sons, les musiques agréables, avec les bonnes odeurs, parfums, avec les choses agréables au goût et avec les objets doux au toucher. Nous nous attachons à toutes ces choses, alors qu'il est complètement vain de s'y attacher parce que nous ne percevons absolument pas leur nature véritable et nous nous trouvons ainsi donc non seulement attachés mais même en quelque sorte englués et aliénés dans cette pulsion d'attachement envers les choses que nous tenons comme réelles sans en comprendre la nature véritable. Voilà donc quel est le défaut.
Dinde ta ta dinde ro ta dinde ro ge ne yi chi zin de du de ge ran xin du yin ba xian ba du ge su du tarab ge ran xin ba xian ba chi du tarab ge ran xin de ka de sa na yang du de ge mo ge su du wa dan zhe le.
Donc, l'univers tout entier, le contenant dans lequel nous sommes, est ainsi entièrement constitué, c'est sa nature, hein, son principe naturel, n'est qu'une composition de particules infimes. Et implicitement, quand on dit composition de particules infime, on dit ce qui est voué au double principe de réunion séparation.
Et
c'est vraiment le principe entier de toute chose dans ce monde de fonctionner ainsi en termes de réunion, séparation et strictement rien d'autre. Et donc, quand on comprend bien cela, et qu'au final, toute notre façon de faire, eh bien, ça n'est rien d'autre que des procédés mentaux, des perceptions subjectives, tout notre rapport, notre relation à l'autre, quoi que ce soit, quel qu'il soit, quand on comprend ce qu'il en est effectivement, cela va effectivement nous être très très utile ensuite dans notre rapport aux personnes et aux choses. Parce que ne comprenons pas ce principe de réunion-séparation, il s'ensuit l'expérience de toutes sortes de souffrances et douleurs, ou bonheur et malheur. Quand il y a réunion, alors c'est plaisant, et quand il y a séparation, alors nous souffrons. Voilà, donc quand on examine les choses, bon, donc là d'un point de vue du point de vue de l'apparence grossière, telle est le fonctionnement de l'expérience, hein, que nous avons des choses. Donc en termes de réunion, bon, imaginons qu'est-ce que cela signifie réunion par rapport à son aspect heureux, et on est content, c'est plaisant. Si dans une famille il y a une naissance, toute la famille se réunit pour fêter cette naissance, hein, tout le monde est là, réunion de tous les membres de la famille qui sont tous contents, et donc voilà une situation qui est plaisante, tout le monde est content d'être ainsi réuni. Et séparation, ce sera dans le cas où une personne meurt, et là, on va avoir toute la souffrance de la séparation d'avec cette personne. Hein, c'est une perte, et on souffre de toute perte, que ce soit d'une personne ou cette montre. Si je perds ma montre, je vais être malheureux. Donc Voilà, au niveau grossier, hein, au niveau subtil, c'est encore autre chose, pour ce qu'il en est de ce principe de réunion-séparation. Mais au niveau grossier, voilà comment, de par ce qui est le principe absolument de toute chose, réunion-séparation, nous sommes donc dans ce perpétuel expérience complètement non contrôlée, avec des attachements très trop puissants, donc en fonction des réunions ou des séparations. Et cela donc, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, il en est ainsi de toutes choses qui ne sont que réunion et ou séparation, c'est directement donc régi par le principe de production d'origine dépendante de toute chose. Qu'on le veuille ou non, qu'on le comprenne ou non, il en est ainsi, systématiquement, de toute notre expérience. Et voilà, quand on comprend que, bon, il en est ainsi de toutes choses qui sont toutes constituées, qui sont toutes par nature inhérentes dans ce principe de réunion préparation, séparation, donc qu'on le comprenne ou non, c'en était comme cela avant, c'est comme cela maintenant, ça sera toujours comme cela dans le futur, et donc il n'y a pas à s'en étonner plus que cela. Sinon, effectivement, donc on va trouver quelque chose d'absolument merveilleux, éventuellement, mais pourquoi ? Il n'y a absolument aucune raison à cela. C'était toujours dans le passé réunion-séparation, ça l'est maintenant, ça le sera toujours. C'est sa nature, son principe même. Il n'y a pas à être ni émerveillé, ni éventuellement effrayé des choses. Donc voilà, je veux préciser que là pour expliquer, exposer ces quatre sceaux, je ne suis pas directement le fil d'un texte de référence. Bon, j'en ai un sous les yeux, comme témoin en quelque sorte, mais là, en l'occurrence, dans mon exposé sur l'impermanence, je vous parle de l'impermanence comme cela me vient à l'esprit, et non pas suivant le fil de tel texte de référence. Voilà, c'est pour ça que éventuellement ça part un peu dans tous les sens. Voilà, donc ne soyez pas trop étonnés que ça parte un peu dans tous les sens. Sinon, vous allez vous dire, vous pourriez vous dire, qu'est-ce qu'il raconte ce lama? Être ainsi étonné de sa façon d'expliquer les choses. Voilà, c'est juste pour que vous écoutiez en toute conscience de cause, que je vous donne cet avertissement.
Et
puis également, quand on considère son propre corps, là aussi, donc il est aisé de comprendre en quoi, comment il est composé. Dulten, il y en a Dulten.
Dulten.
Il y a une proximité entre atome et réunion séparation. Donc pour ce corps, eh bien les deux. Hein. Il est autant composé de particules infimes, d'atomes, que lui aussi régi par ce principe de la réunion séparation. On s'en rend compte aisément, évidemment, en considérant notre propre corps. Ce qui nous permet de bien comprendre également comment on fonctionne et comment sont nos tendances habituelles et nos schémas de fonctionnement.
Le bout de la chicta yendu, collavoni yore, cambani yore, goyore, migyore, tenage uya martang tu yore, ra. That didn't do it on the long stretch of Attila, and that didn't do it at Zingyures.
Donc, si je considère mon corps, donc voilà, ce corps, il a deux mains, deux jambes, une tête, des yeux. Il respire, expire, inspire, et bon, voilà, je dispose, je jouis de ce corps.
Mm-hmm.
Et donc, avec cette fonction vitale, hein, qui est celle de la respiration, un corps vivant capable de respirer, et précisément la respiration, c'est cette chose tout à fait nouvelle qui va se produire quand on meurt, l'arrêt de la respiration.
Tadi la samuji tango ya ke chumu chitare. Tanga chuma shido ye negaso. Shia la tagi yore chumsen ga sana uk che de gure sine. Tangbo uk che pe ge dunga la tene shia ta ya chik. Ni be to ne ra ni me ba cha de gure. Sun be ge to ne bin ja de sam la de gure sine. Tadi ge ga sa de du shi
Et si on pense à sa propre mort, elle va être nécessairement, ça va être une perspective nécessairement effrayante. Si on envisage que l'on meurt, pourquoi va-t-on avoir peur? Donc principalement, on va avoir peur parce que quand on meurt, on ne respire plus. La respiration s'arrête. On a peur de la mort parce que notre corps se détruit, se décompose. On a peur de la mort parce qu'on est séparé de tous les siens. voilà, qui fait que donc on a vraiment peur de mourir si on y pense. Voilà, parce que là, on pense à quelque chose qui nous semble être un événement nouveau, hein, la mort en tant que telle. Mais en fait, c'est parce que on n'a pas conscience des choses telles qu'elles sont déjà dès maintenant. On est déjà dans ce processus continu de réunion, séparation, et donc il n'y a pas quelque chose de nouveau qui n'est pas déjà en plein fonctionnement continu dès maintenant, et absolument rien de nouveau ne se produit. Nous sommes déjà dans la continuité de cette réunion séparation. Par rapport à cette peur que nous avons de la mort, c'est à nous et à nous seuls de trouver la réponse à cette question, en quelque sorte. Hein. C'est à nous et à nous seuls, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir répondre à cette question et appréhender donc ce qui est en nous, la peur de la mort. Si nous souhaitons résoudre cela, trouver la réponse à ce problème, si on peut dire, c'est uniquement nous-mêmes, en nous-mêmes, que nous devons y répondre.
Rani jewa la chitaki mewaro rani jewa la chinaki yomare shiwa la khajira chinaki yoris ra tenaji rani lubu ani le kha da yun de samba ani tanan ki yor ra chinna lubu le kha da we ne ka ki chinna ki
Et on peut aussi se demander qu'est-ce qu'il en est de cette peur de la mort que l'on a, donc qui va être due à la séparation d'entre le corps et l'esprit, puisqu'on est déjà dans un tel rapport de réunion séparation, cette peur on devrait la ressentir en permanence alors que nous sommes reliés à notre corps, avec le corps, l'esprit et le corps, et pas uniquement au moment de la mort.
Ukche cherubresne chinangiro ta di ukche bege dunga pen mesebe solame baji ya ko ti sanutane ukche ga dunga trangnam chuchumbuki ra ta ukche dangbu ngana zu ukona dangi me wa amma inga de yude ko u dangi me wa mane kunga ne ma tune dang nga we u ta ye shine ko zu ko ra ne nim de na shenge yang ukche ko re ne de yinde ko zu uk 당분이네 아주 당글 말에 그 우기 요 말에 아니 발이 가서 죽으래야 담아내야 되나 그 되다게 죽을 내용이요 그래서
Nous avons donc ainsi peur de la perte de notre corps, Alors que auparavant, en tant que simple esprit, nous ne disposions pas de ce corps avant que nous naissions. Il en est de même de cette peur que l'on a de ne plus respirer, de l'arrêt de la respiration. Donc, vraiment, une très grande frayeur, l'idée que notre respiration ne s'arrête. Mais il en était ce qui se passe au moment de la mort, si on pense à notre mort. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a cette peur de l'arrêt de la respiration? Avant de naître, de venir au monde, nous ne respirions pas. Et donc, pourquoi aurions-nous pas de raison valable, au final, à ce que l'on ait peur de l'arrêt de cette respiration? Quand nous allons mourir, nous ne respirions pas auparavant, avant de naître, et même déjà dans le ventre de notre mère.
Den nan xin dang zhong ngan zhong ma ging ga de yu de ge su su bu ta de ne bi zhong zu dan yu ma le si ro wa zu gu yu ma de gang ba yu ma de guo yu ma de zha yu ma de ko ran su mi de su qiong jun ji yu de ta.
Quand nous étions dans le ventre de notre mère, nous n'avions pas un corps en parfait état de fonctionnement comme nous en disposons maintenant. C'était une ébauche. Hein, de corps, avec une ébauche de membres et d'organes, etc. Mais certainement pas le corps que nous avons à présent.
Dénager, allez, courant, t'es de tambour, car vous êtes meilleur par terre. Allez, chogou là, allez, sozogi, chigi, un tueur d'un tour, deux chiens, pas deux chiens là, voilà, deux chiens, mambo, zombo, t'es né, et y en a. Gangbari, kag lakbari, sar chuk. An din nangshin ki subu ya, chir chir chin. Ani tamang la, kod nangshin dangbo nini, kod dutin zomdebar ki maari, kod dutin chungchung jiri. Rwa? Susu ki, maa nga du yub dutin chungchung ji yuri. Ani susu ki sukti. Ani di segi. Ani segi da dutin ri, tenzo. Da dutin kag labdin tasun tenzo ki, ya gongbu chungbo su. Ani tamang shi ru nega su yang,
Donc, lorsque nous étions dans les tout premiers instants de notre conception, une simple réunion de deux cellules, donc là c'était un petit nombre de particules infimes, et même si on compte ainsi la cellule, il n'y en avait que deux. Et puis, cela s'est développé de plus en plus. De nombreuses autres particules sont venues en renfort pour constituer au fur et à mesure dans le ventre de notre mère, pour constituer notre corps qui a grossi, qui s'est développé de plus en plus, commençant à être composé là d'un nombre conséquent de particules infimes, hein, toutes apportées par la nourriture qui permettent son développement, qui ont fait que il a grandi déjà dans le ventre et puis ensuite de notre vivant. Voilà, en tant que un certain nombre plus ou moins défini de particules infimes jusqu'à notre mort où cet assemblage va se désintégrer. Se décomposer, ou toutes ces particules qu'ils constituaient ont chacune se désassembler, partir.
Ani taa dee yaa kandee tene yungu rasi naa joo taa kien laa tene yungu yu rasi rwa, joo taa kien laa tene yungu yu rasi. Dee yaa zaa dee ki raanshin dee dujee ki mungu rasi.
Donc ce corps également est composé de particules infimes. Il est le produit de la réunion de causes et de conditions. Et donc ce corps qui est le nôtre est donc également une chose composée. Hein, autant que le monde qui nous entoure, notre corps aussi, est ce que l'on appelle un composé. Alors, c'est simplement que notre faculté visuelle ne nous permet pas de voir cela. Lorsque l'on considère un verre d'eau, donc l'eau qui est contenue dans le verre, elle est donc constituée d'un nombre immense de particules infimes. On peut prendre l'exemple de l'eau parce qu'il est dit que la particule constituante, hein, l'atome ou la molécule d'eau, est la plus infime entre toutes. Et ainsi, ce qui nous semble être un volume d'eau que l'on appréhende comme tel, est effectivement, mais on ne le voit pas, ça ne nous est pas perceptible, notre sens de la vue n'est pas capable de cela, mais en fait il est constitué donc d'une myriade micro-particules qui le composent.
Et
cela, bien sûr, on peut l'appliquer à toute chose que l'on voit pour comprendre que notre perception habituelle des choses est complètement faussée. L'apparence que nous percevons et que nous pensons être telle qu'elle, comme la réalité, ne l'est absolument pas, puisque en fait, en toute chose, il y a ainsi cette décomposition en une myriade de particules qui composent tout. Nous ne le voyons pas, ce qui fait que nous avons une perception erronée des choses quant à leur réalité.
Et
ainsi, dans cette confusion foncière sur ce qui l'en est vraiment de la réalité des choses, nous développons envers toute chose une saisie de la réalité des choses en tant que telles, d'après leur simple apparence, sans voir plus loin que cela, comme réelle existante en tant que telle, et une saisie de la permanence de ces choses. Et nous sommes donc dans un état permanent, dans toute notre perception des choses, qui est un état de confusion et d'illusion. C'est une perception totalement erronée des choses. Et pourquoi cette erreur foncière de perception? C'est parce que nous percevons dans les termes d'une saisie dualiste, en dissociant nous-mêmes des choses que nous voyons, et c'est notre mental, dans l'approche dualiste de la perception des choses, c'est notre mental qui va prêter à l'objet perçu en face de nous, cette apparence, une existence objective, et donc lui attribuer, lui prêter une réalité que l'objet, en fait, que l'apparence n'a absolument pas, mais on lui prête cette réalité, hein, cette saisie d'une réalité. C'est comme ça qu'elle se développe, parce que nous fonctionnons, notre esprit fonctionne dans ce mécanisme dualiste de la perception. Donc nous sommes notre perception est ainsi que nous prêtons à toute apparence une réalité qu'elle n'a pas. Hein. C'est ça, la saisie d'une réalité des choses. Une réalité, une permanence, etc. Nous prêtons aux choses une réalité qu'elles n'ont pas. Notre esprit et notre perception est donc marqué par un voile, hein, un obscurcissement qui fait que on prête aux choses une réalité qu'elles n'ont pas. Quel est ce voile, cet obscurcissement que l'on a? C'est le fait que on soit incapable de comprendre, de saisir ce qu'il en est de la réalité absolue de cette apparence que l'on pense exister réellement. Ceci est voilé à notre compréhension par cet obscurcissement. Et donc voilà, quand on parle de voile qui obscurcisse notre esprit, c'est cela. Il nous voile la réalité absolue des choses, et donc nous les font ainsi saisir comme réelles, alors qu'ils n'ont absolument pas cette réalité qu'on leur prête.
Din najingi ta tiye ta kanda ne lo tobe jibe tribe bo son sa ni ti chipa ji ane ta te te chipa te yo son bo ina ko ne lo to ya la par ji ji gi yore ta di par ji kang ji chipa ra sna ta ji she pen na shi na wa te ni yu ne su la yo re sim be ki lo trupa re shi te lo trupa te मोह कारसना मारिक परेस कहना मारिक परेसना कुन्ने सो द नांसु निचुल ने मारिक परेस
et donc nous nous trompons ainsi foncièrement l'esprit notre esprit étant complètement voilé à la compréhension de la véritable nature des choses. Nous sommes incapables, du fait de ce voile, de réaliser la véritable nature des phénomènes. Et ce qui fait que nous accordons aux objets une existence en dehors de nous, une existence intrinsèque en tant que telle. Nous percevons ainsi tous les objets, et ceci donc parce que nous sommes dans l'ignorance, hein. Il y a donc cet obscurcissement de l'esprit, mais il y a aussi donc son ignorance, qui est l'ignorance foncière, hein, l'ignorance de, là encore, de ce qu'est la véritable nature de cette apparence qui nous semble être pourvue d'une existence intrinsèque, alors que ça n'est pas du tout le cas. Donc je pense que on comprend bien pour ce qui est de toutes les choses matérielles, substantielles, dans l'ensemble de ce contenant, le monde qui nous entoure, nous comprenons bien, j'espère, nous comprenons bien donc ce qu'il en est de son absence complète de permanence, de durabilité, de solidité. Dès lors, donc, on voit toute chose sous cet angle qui est celle de la seule et unique et pure composition temporaire d'atomes, de particules infimes, tout cela évoluant dans l'instant et d'instant en instant. Ça se comprend. C'est totalement dépourvu d'une pérennité, d'une durabilité, d'une solidité, donc encore moins d'une permanence, parce que c'est totalement fluctuant dans la dimension des trois temps. Alors, c'est parce qu'il y a ce que l'on appelle donc les trois temps, c'est dans cela, en cela, que donc nous faisons toutes sortes de choses, que nous voyons, nous percevons toutes sortes de choses. C'est dans le cadre temporel, hein, celui des trois temps.
C'est
S'il n'y avait pas le temps, alors rien ne pourrait se passer. On ne pourrait pas parler avec une autre personne, se parler, on ne pourrait rien faire s'il n'y avait pas le temps. Il n'y aurait rien. Et donc, le temps, est-ce que l'on comprend donc comme étant le temps dans lequel on s'inscrit, le temps passé, le temps présent, le temps futur, et ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est important, c'est que cette histoire de temps, passé, présent, futur, est de l'ordre de l'instant. Ce ne sont que des instants. Tout ce qui existe, absolument tout, existe dans et comme un instant. S'il n'y avait pas d'instant, alors il n'y aurait rien. Par exemple, imaginons que cette pièce est entièrement plongée dans l'obscurité, vraiment le noir total, et qu'il n'y a qu'une seule lampe au plafond. Elle est éteinte. Donc, la pièce est dans l'obscurité, et tant que l'on ne va pas appuyer sur l'interrupteur, la lumière ne s'allume pas, hein. La pièce reste dans l'obscurité. À l'instant même, ça se produit vraiment dans l'instant, quand on parle d'instant, où on appuie sur l'interrupteur, l'électricité va jusqu'à l'ampoule, qui s'éclaire, qui illumine la pièce, qui est de l'ordre de l'instant. Précédemment dans l'obscurité, l'instant suivant dans la lumière. Et donc, il s'est produit dans l'instant un résultat qui n'existait pas, l'instant précédent. Et voilà, pour ce que nous voyons maintenant de la lumière et des différentes choses, ce que nous croyons voir, il n'en est absolument pas ainsi. Donc là, on voit une lampe allumée. Voilà, donc je désigne une lampe, alors tout le monde regarde la lampe pour comprendre. Mais non, ce n'est pas forcément la peine, c'est juste l'exemple que je prends. Cette lampe.
Tuit nampa kundo mimba setugu mares. Lo de rangi, tuit nampa kundo setugu yo mares.
Cette lampe, elle n'a pas de façon inhérente la capacité d'illuminer, d'éclairer constamment, continuellement l'obscurité. Elle n'a que la capacité d'éclairer dans l'instant et d'instant en instant. Chaque instant successif, une ampoule allumée a cette capacité d'éclairer. Mais c'est purement une capacité instantané, en aucun cas un instant d'une ampoule allumée ne pourrait éclairer à jamais une obscurité. Et si on pose la question, est-ce que cette ampoule, est-ce que cette lampe éclairera toujours l'obscurité demain? Bon, voilà, là, on a la réponse à notre question.
On comprend.
C'est chaque instant qui a le pouvoir d'éclairer, la capacité d'éclairer dans l'instant. Le premier instant de l'ampoule allumée, puis ensuite le premier instant disparaît, c'est le deuxième instant de l'ampoule allumée qui disparaît, c'est le troisième instant, puis le quatrième instant. Hein, ce n'est pas une capacité qui serait continue d'un instant à l'autre. Elle est purement instantanée. Elle n'existe plus. Celle du premier instant n'existe plus quand le deuxième instant est là, et ainsi de suite pour le troisième, le quatrième, tous les instants qui se suivent.
Donc,
l'instant numéro 1, cette ampoule allumée, et l'instant suivant, numéro 2, sont deux instants différents. Ce n'est pas le même instant. Si on affirmait que l'instant numéro 1 et l'instant numéro 2 sont confondus, ah ben alors on peut également affirmer que aujourd'hui c'est demain, que demain c'est aujourd'hui. Mais le repas de demain, ce n'est pas le repas d'aujourd'hui. Tout comme le repas de demain n'est pas le repas d'aujourd'hui, le deuxième instant qui succède à un premier instant n'est pas cet instant.
Ti yendu nyeba de lo parto kyores.
Alors, on va légitimement se poser la question, alors comment se fait-il que, suite au premier instant, la lampe dans l'instant suivant, le numéro 2, est toujours la capacité d'éclairer. C'est-à-dire que dans l'instant numéro 2, la lampe éclaire. Il y a un lien effectif, même si les deux instants, on a dit que les deux instants sont séparés, hein, sont distincts, ce n'est pas le même instant. Ils sont distincts, mais il y a un lien entre les deux en ce que la condition la capacité d'éclairer de l'instant suivant se trouve présente dans l'instant précédent, l'instant immédiatement précédent.
Ani dera tene ani kansuro da logi jun bal ma che ba da bu ne te tu ge ra. De ma to ani logi ji tang bu rang ge char te ba zan ni ma res. Yena ya ta nga ran su lo te chu ba yin ba song sa. Ge ji tang bu ni ba sun ba ten su chu ni ye che tu gu yo ma re. Ra. Ge ji che ma de de lo tang bu ge ji ta sa ni lo ma shi ge ba da te ga ran ten de re.
Et donc, d'instant en instant, cette condition nécessaire à l'instant suivant perpétue tout le temps qu'une lampe reste allumée. Mais donc, nous n'avons absolument pas conscience de ce qui se passe dans la fraction d'instant, cette succession d'instants infimes, dans ces fractions d'instants, de ce mécanisme en quelque sorte qui permet, ce qui nous donne l'illusion, l'impression qui est erronée d'une continuité de lumière, comme si elle restait constamment allumée, alors qu'en fait elle n'est allumée que d'instants infimes en instants infimes qui se succèdent. Donc cela, on ne le perçoit pas du tout, on est donc dans cette confusion, illusion de l'impression apparente, de l'apparence de cette lumière, comme on voit d'habitude et on considère d'habitude toute lumière
allumée. Pena nima tege zambulin la vesa tanga shina chigidu, ra? Mese chige chawa mithu ni chang tsu te kante yinba tere yang shanga chigidu, depe de chachimbura linsa yoris.
Et donc ce principe que l'on vient d'expliquer en l'appliquant à la lampe allumée, on peut l'étendre à tout, absolument à tout. Donc on peut l'étendre par exemple au soleil, la lumière, le rayonnement lumineux du soleil, on peut l'étendre à nous-mêmes, à toute chose, dans tout ce que l'on fait, dans nos rapports avec les autres et à toute chose. Il en est ainsi, hein, de ce principe d'instantanéité. Si on comprend cela déjà va nous être extrêmement profitable dans la vie, dans cette vie, dans les termes de la qualité de conscience que d'être conscient de que cela awareness, que cela va nous apporter.
Demado, Kedji Tambo de Lot and Kedji Sumba Tamja Segres and Kulon Tendejiki, Nisus Messina Tendeji Chonda Yamba Chutures.
Oui, alors évidemment, on ne va pas pouvoir continuellement percevoir toutes les choses comme cela en voyant comme si on voyait tout qui se fractionne d'instant en instant, comme la lumière, mais vraiment appliquée à toute chose. Donc, si c'était une perception constante et continue tout au long d'une vie, ça rendrait la vie compliquée.
Tende kanda ko chala kanda te java kanda ga ine ya ko kije kije de ga ra la ani ne tu gyo re ma to ani te kije te ge ma on bala ani yun tu ma des.
Mais voilà, simplement on peut être conscient que par rapport à toute chose dont on jouit, que l'on possède dans l'instant, eh bien, voilà, c'est purement dans l'instant et qu'il n'y a absolument aucune certitude pour que cela soit encore dans le futur, dans l'instant suivant ou plus tard dans le futur. Et on va pouvoir ainsi l'appliquer donc dans tout ce que l'on fait, être beaucoup plus dans l'instant présent de ce que l'on fait. Sans cette appréhension solide et durable des choses, et on va pouvoir l'appliquer surtout à tout ce dont on fait l'expérience comme bonheur ou malheur, plaisir et souffrance. Il en est de même, hein, quand on fait l'expérience de la souffrance, donc c'est instantané. Pour que cette souffrance se continue, il faut que, pour que l'instant suivant de souffrance se produise, il faut qu'il y en ait la condition, la cause dans l'instant précédent, et ainsi de suite pour chaque instant successif. Sinon, il ne peut pas y avoir, s'il n'y en a pas la cause, la condition dans l'instant précédent, il ne peut pas y avoir la souffrance dans l'instant suivant. Il en est de même également pour le bonheur et le plaisir. Sans cause et condition précédente, rien ne saurait être dans l'instant suivant et plus loin, que ce soit souffrance ou plaisir. Et donc cette compréhension de la nature instantanée de toute chose, là nous permet vraiment de comprendre ce qu'il en est de l'impermanence de toute chose, parce qu'on voit alors les choses sous, avec ce regard vraiment complètement différent, où les choses n'existent que dans une continuité d'instants successifs qui, au fur et à mesure, donc, sont dans une évolution, dans un changement continu d'instant en instant, et elle n'existe en tant que semblant d'apparence, comme nous les percevons, que comme ça, que comme cette continuité, une succession d'instants.
Mi shengi suwe shaba chi mayimba wa rang shengi tonne chudan kien na tene chudwa chogu yores.
Et ce principe de transformation continue instantanée de toute chose n'est pas le fait d'une personne ou de quoi ou de qui que ce soit, c'est le principe immanent, naturel de toute chose.
Tindi ta pena rangni dangbo pugu yimachi pugu ne gandar dikansa pugu ne dharma yimachi dharma ne pawa pawa ne ani gebucha ta dendawe gebucha dero koran samnu chitanda pugu de dharma de mare dharma de pugu de mare dharma de pawa de mare pawa de dharma de mare de nanshe kyebu de dharma de mare pawa de mare pawa de kyebu de mare kuran kaga chiris ko ne judu gu yores.
Prenons un exemple quand à nous-mêmes, d'abord enfant, puis adulte, puis père, puis vieux. L'enfant et l'adulte ne sont pas le même. Hein? L'enfant n'est pas le père, l'adulte et l'adulte n'est pas l'enfant. De la même façon, ensuite, dans le fil du temps, le père n'est pas l'adulte, l'adulte le père, il n'y a aucune identité entre les deux, ni non plus entre le père et le vieux, ou le vieux et le père, le vieux qui est devenu ensuite. Il y a, on le voit bien, hein, une transformation, une évolution permanente, aucune identité entre les différentes occurrences hein, dans le temps d'une personne. Et s'il y a une identité, ça n'est qu'une identité d'apparence. Parce que bon, on pense bien, c'est moi. L'enfant que j'étais et moi, maintenant, c'est moi, c'est la même personne. Donc, on fait bien une identification entre les deux. On pense donc qu'il s'agit de la même personne. Mais ça n'est qu'un semblant, qu'une apparence d'identité, parce que, au fond de la réalité des choses, il n'y a aucune identité entre ces deux occurrences de notre personne. Juste sur le plan relatif, hein, qu'il nous semble qu'il y a une identité, mais au fond, elle n'existe absolument pas.
Ta
ngon gi me tang ta ta gi me ta chigre chigpare pa na chuk
te mo ta dinde re je du ta na ore ta de inde ta de ngaran zu ge gale san lo tang gyo se na ta de be ge pu de ju la ta rani tri bu la ta ra
On peut également voir cela, hein, ce semblant d'apparence, cette continuité entre l'enfant précédent et l'adulte présent, comme étant une relation de cause à effet. Hein. L'enfant en tant que cause et donc de laquelle se produit l'adulte en tant que résultat. Et bon, si, donc ça c'est un principe effectif, hein, l'instant précédent est une cause qui est, de laquelle l'instant suivant se produit en tant que résultat, et ainsi de suite. Si c'était quelque chose de stable en soi, alors d'accord, bon, mais ça n'est pas le cas. Ce processus de cause à effet, cause-résultat, qui lui-même est la cause du résultat suivant, ça n'a aucune, aucune stabilité. C'est en transformation continue. Donc voilà comment il faut comprendre les choses. Quand on se place du point de vue de l'enfant que nous étions précédemment, voyons-le comme une cause qui a produit le résultat qui est l'adulte que nous sommes maintenant. Et donc dans ce rapport, hein, de cause et de résultat, comme cela que ça se passe.
Et
ce principe de cause, de production de cause à résultat n'a aucune permanence ou stabilité.
Tout
à fait incertain.
C'est
difficile de pouvoir d'ores et déjà dire voilà, c'est telle cause, donc ensuite ça va être tel résultat de manière fixe et définitive. Très difficile de pouvoir établir les choses comme ça. Et puis également, on peut faire le raisonnement suivant. Quant à ce que l'on entend par le passé, et également d'ailleurs par le futur, c'est uniquement et purement considéré du point de vue de l'instant présent. C'est toujours dans l'instant présent que on pense et qu'on conçoit passé, ou futur. C'est un événement, quelque chose qui en soi ne s'inscrit que dans l'instant présent, le passé et le futur.
Voilà,
Et donc, en fait, puisque tout s'inscrit dans l'instant présent, donc ça implique que ce qu'on pense être le passé et le futur n'existe pas, puisqu'il n'y a que l'instant présent. Donc là également, ce concept que l'on a, cette appréhension au niveau temporel, dans ce que l'on saisit comme étant les trois temps, le passé et le futur, quand on raisonne de la sorte, ça ne vaut plus. Puisque le présent, le passé et le futur ne sont pas dans l'instant présent, et comme il n'y a que l'instant présent, donc là, la conclusion est claire, le passé et le futur ne sont que purs concepts. Et donc, comme cela est régi par le principe de l'impermanence, c'est-à-dire de l'impermanence, c'est-à-dire de la transformation perpétuelle, on ne peut en aucun cas établir ce que sera le futur par rapport au présent. Tout est impermanent. Voilà, le futur n'existant pas dans l'instant présent, donc on ne peut en aucun cas établir avec certitude ce qu'il peut être. C'est un pur concept, c'est une pure projection conceptuelle. Le futur n'a absolument aucune existence dans l'instant présent. Et pour le passé, c'est exactement la même chose. Ça n'est qu'un pur phénomène mental dans l'instant présent. Et l'impermanence, le principe d'impermanence, de transformation instantanée qui s'inscrit dans l'instant présent et qui se perpétue d'instant en instant. Sinon, le principe de transformation et d'impermanence ne se trouve pas ni dans un passé objectif, ni dans un futur objectif. Il n'est que dans l'instant présent. Que nous faut-il donc comprendre, retenir? Ce que l'on entend par objet n'a pas la moindre stabilité, solidité. Permanence.
Et
on peut envisager cela de toutes les façons à partir du moment où tel est le principe d'existence de toute chose, rien ne peut avoir aucune durée stable, aucune permanence. Donc, les choses n'existent strictement que dans l'instant présent. Le passé n'existe plus dans l'instant présent, donc pas. Le futur n'existe pas encore dans l'instant présent, donc pas. Cette maison, hein, n'existe, ce bâtiment. Le futur bâtiment n'existe pas. Le bâtiment passé n'existe pas. Ma propre personne passée n'existe pas, ni future, n'existe pas, il n'existe que pour ce bâtiment, pour moi-même, toute chose, que la chose de l'instant présent. Et donc, quand on comprend ainsi que tout ce qui est composé n'a pas la moindre permanence, la moindre existence durable, la moindre solidité, on va donc dès lors cesser de s'attacher vainement à ce qui se transforme continuellement d'instant en instant, on va cesser de s'attacher à tout cela. Et voilà, ça c'est vraiment important de comprendre ce principe d'impermanence des choses. Mais je n'en ai quand même pas fini avec le sujet de l'impermanence et je continuerai demain avec l'impermanence. Parce que c'est vraiment important, n'est-ce pas? Et voilà, et donc voilà pour aujourd'hui.
Sonam de tam je se bani tam ne te dona pom je che gana che bala tu pa se ga so le do wa do tem ba che den tam so jun ba ta tem ba ni shin do so wa ta ten zen bo do da shin ge ba ye tem ba yu ne te ta shi shu.